Bonjour à tous. Vous savez que le prochain livre d'enseignement que nous allons étudier ensemble, c'est le livre des Actes. Donc je pense que c'est Daniel qui va commencer l'étude dimanche prochain, s'il s'est remis de son périple aux États-Unis. En préparation à cette étude, j'avais envie de lire, eh bien, la fin de l'évangile de Luc, puisque vous savez que les Actes ont été écrits par Luc. Donc, pour introduire cette étude, ça me paraissait bien de lire ce que Luc disait à la fin de son évangile. Et ça tombe bien de le faire ce premier dimanche de l'année, parce que cette fin de l'évangile de Luc, c'est le nouveau départ donné aux disciples, c'est le départ de l'Église. Dans ce passage, Luc va résumer les 40 jours que Jésus a pendant lesquels Jésus est apparu à ses disciples et leur a parlé. On va lire ce texte. Donc c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et je vais lire à partir du verset 36 jusqu'à la fin, dans la traduction du Semeur. Donc Luc va résumer ces 40 jours dans ces quelques versets, et on va voir que ce passage va être le début de l'Église, et va donner non seulement un nouveau départ à ses disciples, mais représente aussi la mise en place de dans mon cœur, j'avais envie de dire de l'armée que le Seigneur s'est préparé. De cette armée spirituelle qui va apporter son message au monde et le transformer. Donc je lis dans Luc 24 à partir du verset 36. Donc ça se situe juste après le passage qui nous parle d'une part de la résurrection et ensuite du passage où Jésus apparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc les disciples, donc ces deux disciples là, donc arrivent là où étaient réunis les disciples. Et pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ensuite, il les emmena hors de la ville, jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. La première réaction des disciples quand, euh, quand ils voient Jésus, c'est la peur. La peur, la crainte, l'effroi. Et effectivement, les disciples ont vu Jésus battu. Ils l'ont vu cloué sur une croix. Ils l'ont vu expirer. Ils l'ont vu être mis dans un tombeau. Et pour eux, bien sûr, de ce chemin-là, on ne revient pas. La mort est définitive. Et bien sûr, dans leur compréhension, ce qu'ils voient sous leurs yeux, eh bien, c'est impossible. On ne revient pas de ce voyage-là. Et Jésus leur dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous doutez? À chaque fois que Jésus pose une question, souvent la réponse paraît évidente. Et pourtant, c'est, je pense, toujours intéressant de s'arrêter sur ces questions. En leur demandant pourquoi est-ce qu'ils ont peur, alors que la réponse, bien sûr, est évidente, Jésus leur propose de revenir sur leur compréhension du monde, de revenir sur ce qu'ils croient être vrai et immuable. Il leur demande de remettre en question ce qu'ils pensent être impossible. Et Jésus va leur montrer quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Alors bien sûr, on peut penser à la résurrection de Lazare, mais cette résurrection-là a finalement rien à voir. Jésus se présente à eux avec un corps nouveau. Il apparaît au milieu d'eux et il leur montre ses mains et ses pieds. Alors dans ce texte, c'est pas explicite, mais les autres textes nous disent que sur ses mains et sur ses pieds, on voyait la marque des clous. Il leur montre un corps qui porte les signes de son sacrifice, mais il leur montre un corps vivant. Il les invite à le toucher, à bien s'assurer par tous leurs sens que ce qu'ils ont devant eux, c'est bien celui qu'ils ont vu mort sur la croix. Il les invite à s'assurer de ça parce que le texte nous le dit, les disciples devront être les témoins de ça. Leur message principal, la puissance de tout ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire « Nous avons vu, nous avons touché celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Il leur montre quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui met en œuvre deux caractéristiques fondamentales de Dieu. La première de ces choses, et il le met en avant quand il leur montre ses mains, il met en avant l'amour que Dieu a manifesté à la croix, cet amour incomparable, cet amour qui nous dépasse, cet amour qui l'a poussé à donner sa vie pour nous, à souffrir à notre place, à porter la condamnation de nos péchés à notre place. Il leur montre les signes physiques de cet amour. Il leur montre aussi la puissance de Dieu mise en œuvre dans la résurrection. Il leur montre la mort vaincue. Il leur montre que le Dieu qu'ils vont suivre pour le restant de leur vie, que ce Dieu-là est tout-puissant, que ce Dieu-là est passé là où nul autre avant n'était passé, qu'il est remonté du séjour des morts, qu'il est vivant, que son corps est là devant eux, un corps nouveau, un corps qui peut être touché, un corps qui peut manger de la nourriture. Alors il leur demande, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Et il les invite à considérer que dorénavant toutes choses sont nouvelles, que l'amour et la puissance de Dieu sont entrés dans le monde d'une façon qui n'avait jamais été vue auparavant. Il les invite à réfléchir à ce que cette chose, à ce que cette nouveauté va impliquer dans leur vie. Comme Paul le dit dans un passage qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps, « Détournez-vous des choses anciennes, car maintenant toutes choses sont nouvelles. Tournez-vous vers ce qui est nouveau, oubliez ce qui appartient à l'ancien monde et tournez-vous vers ce monde nouveau que Dieu met devant vous. » Ça, c'est la première partie de ce passage. Dans la deuxième partie, Jésus va leur dire, maintenant que vous avez compris que toutes choses sont nouvelles en moi, maintenant rappelez-vous ce que je vous ai dit, et non seulement moi, mais rappelez-vous tout ce que l'Écriture a dit à mon sujet. Tar l'a dit ce matin, Dieu ne change pas. Son plan pour le salut des hommes a commencé dès la création. Toutes choses sont nouvelles en Christ, et pourtant, le plan de Dieu, lui, ne change pas. Le texte nous dit que Christ va ouvrir leur intelligence. On sait que le péché obscurcit l'intelligence. Eh bien là, le Christ va s'adresser à leur intelligence et leur demander de se rappeler, leur demander de réfléchir et de comprendre son plan. Ce plan qui, comme je l'ai dit, débute au premier jour et se continue jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier. Ce plan de salut, cette histoire dans laquelle Dieu intervient, dans cette histoire des hommes, où Dieu va se révéler de plus en plus, se révéler pour finalement montrer son amour et sa puissance. Cet amour et cette puissance qui culminent à la croix et à la résurrection. Il leur demande de réfléchir parce que Dieu veut que nous comprenions. Il veut que nous comprenions le déroulement, les enjeux, la direction. Parce que Jésus nous l'a dit, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des fils. Les fils comprennent ce que le Père attend d'eux. Et l'histoire de l'Église va reprendre ce cheminement de la compréhension de la continuité de cette histoire du salut. On peut d'ailleurs remarquer que l'Église, malheureusement, va assez rapidement oublier la partie nouvelle, la partie de tout ce qui fait la puissance et la nouveauté de la vie en Christ. pour s'attacher à la continuité et au fait de faire perdurer son propre système. Mais ici, Jésus nous donne un message d'une puissance qui va transformer le monde. Le fait que sa puissance a fait toute chose nouvelle, ce qui était impossible devient possible, parce que à Dieu, rien n'est impossible, et que Dieu vient habiter au milieu de nous. Mais cette nouveauté s'inscrit dans quelque chose qui dépasse ce qu'on voit ici et maintenant. Cette nouveauté s'inscrit dans une création, dans un cheminement qui va du début jusqu'à la fin. Quand j'ai lu ce passage, la parole qui m'a le plus, qui m'a marqué, qui m'a impacté, qui m'a touché, c'est quand Jésus parle du message qu'il va donner à l'Église. Il dit, vous devrez donc annoncer que l'Écriture a enseigné que le Messie devait venir, qu'il devait souffrir et mourir, ressusciter. Et on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Ils doivent changer. La traduction traditionnelle de ce mot-là, c'est « repentance ». En grec, « métanoïa ». Et c'est bien de temps en temps de lire les choses d'une façon un peu différente, parce que dans « repentance », moi, ce que j'entends dans « repentance », c'est surtout des regrets. Je me repens, je regrette ce que j'ai fait. Et effectivement, dans la repentance, il y a cette dimension du regret. Mais surtout, et c'est ce que cette traduction met en avant, dans la repentance, il y a le changement. Et en lisant ce texte, moi, j'ai pensé à mes enfants. Parce que on enseigne à ces enfants des valeurs, on essaie de leur enseigner le message de Dieu. Mais ces quelques mots m'ont mis en avant que c'est pas des valeurs qu'on veut transmettre, ni un savoir. Ce qu'on veut transmettre, c'est la nécessité qu'il y a à changer de position, à se déplacer du centre de sa propre vie pour donner ce centre à Christ, à changer de direction, parce que je ne suis plus mon propre chemin, je suis le chemin du Christ. Changer. C'est ça que nous avons à dire au monde. Le royaume de Dieu s'est approché. Le salut vous a été donné, mais vous devez changer pour le recevoir. C'est difficile de parler de ça, je trouve, dans sa propre famille, parce que ce changement-là peut être brutal et marqué d'une façon très nette, avec un avant et un après. Bien souvent, pour les enfants de chrétiens, pour ceux qui entendent parler de Dieu tôt dans leur vie, ce changement se fait de façon graduelle. Et parfois, on a du mal à savoir à quel moment on a effectivement décidé de changer. De changer de nature, de changer de chemin. Mais ce changement-là, C'est un changement qui se renouvelle chaque jour, pour nous aussi. Dans cette histoire du salut, c'est un fleuve de vie qui coule depuis le Christ, qui retourne vers le Christ, le commencement et la fin. Nous avons besoin de nous réaligner à chaque fois sur cette direction, de marcher à nouveau sur ce chemin, parce que ça devient facile de dévier. Et nous avons besoin de changer à nouveau, de revenir sur le chemin que Dieu met devant nous. Et ce changement, bien sûr, se manifeste, se traduit par des actes. Les textes nous disent des actes dignes de votre repentance. Donc, je l'ai dit, dans ce texte, on voit Jésus poser les fondements de l'Église qui démarre, qui naît à ce moment-là. Ces deux notions, sont le changement, d'une part, parce que tout est nouveau, tout est possible en Christ, tout est possible à celui qui reçoit l'amour et la puissance de Dieu dans sa vie. La deuxième notion, c'est la continuité. La continuité dans le plan de Dieu dans lequel nous nous inscrivons. Ce fleuve sur lequel dans lequel nous entrons, ce chemin sur lequel nous marchons, qui est le même depuis toujours. Après le deuil que les disciples ont vécu, Jésus va leur donner un nouveau départ, un nouveau message, une nouvelle direction. Et il leur promet une puissance qui vient d'en haut. La première chose que doivent faire les disciples, c'est d'attendre que Dieu pourvoie, que Dieu envoie ce consolateur, que Dieu envoie celui qui va venir habiter dans leur cœur et les conduire jour après jour. Alors moi, ce matin, je ne vais pas vous souhaiter une bonne année, mais je vais vous encourager à entrer dans ce fleuve de vie, dans ce fleuve du salut, à témoigner autour de vous qu'il faut changer, qu'il faut changer pour pouvoir marcher sur ce nouveau chemin, à témoigner, oui, qu'il faut changer de direction, parce que toutes choses sont nouvelles, et le royaume de Dieu s'est approché de nous. Que le Seigneur vous bénisse.